enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Notre vision pour l'Église pour l'an 2007 peut se décrire par un mot, et c'est le mot croissance. Croissance est la vision de l'Église pour 2007. Nous sommes résolus à connaître la croissance cette année. La croissance personnelle et corporelle. Ça veut dire en tant qu'individu, moi je veux connaître la croissance de ma vie en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, nous voulons connaître la croissance. Et moi je vous annonce cette vision comme la volonté de Dieu pour l'Église évangélique de la Rive-Nord avec assurance et confiance. Je vous annonce ça comme c'est la volonté de Dieu. La raison pourquoi que je peux le dire d'une façon catégorique et avec confiance, c'est parce que c'est une vision qui n'arrive pas de Marc Lecomte. Ce n'est pas ma vision pour l'Église. Ce n'est pas mon idée pour vous. Ce n'est pas une nouvelle révélation que j'ai reçue du ciel. Ce n'est pas un rêve que j'ai reçu dans la nuit, la croissance pour l'Église évangélique de la Rive-Nord. Ce n'est pas rien que mon désir, ce n'est pas mon plan, ce n'est pas ma vision, mais celle de Dieu. Alors, comment que je sais ça? Parce que ça vient de la Bible. Les meilleures visions viennent de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est pour ça que je peux l'annoncer avec confiance et assurance, parce que c'est ce que la Bible nous enseigne, la parole de Dieu. La Bible est claire. La volonté de Dieu pour nous est que nos vies soient marquées par une progression, une évolution, une amélioration et une croissance continue. De cela, je suis certain. C'est catégorique. La Bible nous enseigne d'une façon claire et précise. Et nous avons appris la dernière fois par l'Évangile de Luc et le Livre des Actes, que la vie et ministère de Jésus, ainsi que celle de l'Église, est marquée par la croissance continue. En tant que chrétien, je devrais avoir la conviction profonde, inébranlable, que Dieu m'appelle à une vie distinguée par la croissance et par l'impact. Le désir de Dieu pour vous, le désir de Dieu pour moi, pour notre vie, notre ministère et pour l'Église en général, est la croissance. De ne pas croître n'est pas une option. Qu'une Église ou une vie plafonne n'est jamais l'intention de Dieu. De tout simplement maintenir ou entretenir ma vie ou mon ministère, ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas une considération viable, pas selon Dieu, pas selon Luc. Il faut le croire. Il faut le croire pour la croissance. Il faut l'attendre. Comme j'ai dit la dernière fois, « expect it ». Il faut attendre la croissance. Il faut attendre que cette année, dans ma vie, dans l'Église, dans mon ministère, il va y avoir une croissance. Parce que tout ce que Dieu touche, croître. Quand Dieu met sa main sur une Église, quand Dieu met sa main sur une vie, la Bible nous enseigne, on l'a découvert la dernière fois, que tout ce que Dieu touche connaît la croissance. C'est pour ça qu'on prie, Seigneur, mets ta main sur ma vie, mets ta main sur ma famille, mets ta main sur mon foyer, mets ta main sur l'Église, mets ta main sur nos ministères, parce que tout ce que Dieu touche connaît la croissance. C'est dans la Bible et c'est ce que la nature nous enseigne, comme on a découvert la dernière fois. Nous avons appris ensemble que selon la vie de Jésus, nous devons avoir en tant qu'individu une vie de croissance et un ministère en croissance. Ça, c'est selon la vie de Jésus. Mais on a aussi appris, en tant que groupe ou en tant qu'ensemble, on devrait avoir une église en croissance. On a découvert qu'on devrait avoir une église qui est en croissance en membres. Ça, c'est l'aspect quantité. On cherche une croissance en membres. Les personnes ajoutées à l'Église, les personnes sauvées, on veut une croissance en termes de quantité, mais nous voulons également une croissance en mission. Le Seigneur appelle cette Église non seulement dans une croissance en nombre, mais une croissance en mission. Ça, c'est l'aspect qualité. On veut avoir une croissance quantité, mais aussi une croissance qualité. Puis en quantité, Luc nous démontre d'une façon systématique, on l'a vu la dernière fois, dans le Livre des Actes, d'une façon systématique, nous voyons une progression continue. L'Église, la première Église, et Luc nous démontre d'une façon systématique, la première Église a passé de 120 à plus que 3000, à plus que 5000, et ils ont devenu une multitude, Et là, la dernière description que Luc donne de l'Église, c'est que l'Église a devenu une nation. Ils ont devenu un peuple. Ils ont devenu une race. Ça veut dire que l'Église a passé de 120 personnes cachées dans une salle de prière pour chercher la face de Dieu à une nation de croyants trop nombreux pour compter. Et moi, je crois que ce que le Seigneur a fait dans l'Église des Actes, il peut faire pour nous encore aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ils ont passé de 120 à une nation. Nous sommes beaucoup plus que 120 et nous pouvons croire, si on applique les mêmes principes, nous autres aussi, nous pouvons connaître une croissance systématique pour avoir un impact sur un peuple, sur une race et devenir une nation de croyants. Mais aussi, il y avait une croissance en qualité. Ça veut dire en mission, l'impact, l'influence locale et globale. On a vu ensemble cet impact missionnaire. Ils avaient commencé avec Jérusalem. Après ça, Samarie. Actes chapitre 8, les villes d'alentour, Rome, le centre de l'univers dans le temps, et également les extrémités de la terre. Alors, ces 120 personnes, ils ont commencé dans une salle de prière pour chercher la face de Dieu. La main de Dieu les a touchés. Le Saint-Esprit est descendu. Ils ont passé de 120, 3000, 5000, un race, une nation. Ils ont quitté Jérusalem pour avoir un impact sur Judée, sur Samarie, sur les villes alentour, en Rome et aux extrémités de la terre. Et si Dieu l'a fait pour la première église, il peut le faire pour nous aujourd'hui. Car la qualité d'une église n'est pas seulement, c'est pas rien que ses nombres, le nombre de personnes attachées à l'église, mais la qualité d'une église, c'est sa mission, c'est son impact local et global. Et le Seigneur nous appelle à avoir un impact local, c'est certain, mais aussi, moi, je crois que nous sommes appelés à avoir un impact aussi régional et aussi global dans le monde francophone. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, là, voilà la vision de Dieu pour l'Église évangélique de la Rive-Nord. La croissance, comme décrit par Luc, dans l'Évangile de Luc et le Livre des Actes, qui était une croissance en quantité et en qualité, une croissance en maturité et en ministère, une croissance en membres et en mission. C'est une croissance en implication et en intimité personnelle avec le Seigneur. C'est une croissance en influence et une croissance en impact. C'est une croissance en tant qu'individu et c'est une croissance en tant qu'Église locale et globale. Et si c'était bon pour eux, c'est bon pour nous. Luc essaie de nous enseigner quelque chose. Il essaie de nous enseigner que quand Dieu est présent, quand le Saint-Esprit agit, quand on applique certains principes, nous pouvons attendre la croissance. C'est pour ça que je dis, notre thème est biblique. Seigneur, on veut connaître la croissance en 2007. Est-ce que je peux entendre un grand amen à cette vision ce matin? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu peut le faire, Dieu va le faire. Il le fait, puis il va le faire encore. Attends croissance, un impact. Ça, c'est le rêve de Dieu, c'est la vision de Dieu. Jésus et Luc viennent à l'encontre d'un esprit de petitesse, petite possibilité, petit rêve. Né pour un petit pain. Ça, ce n'est pas biblique, ça. Il détruit l'idée que nous ne pouvons jamais être ou devenir grand-chose. C'est pas vrai. Quand Dieu met sa main sur un peuple, il y a des grandes choses qui nous attendent. Chacun de nous pourra accomplir des grandes choses. Des grands rêves, parce que Dieu est là. Le Saint-Esprit agit, il met sa main sur nous. Jésus voit plus de possibilités en nous que nous-mêmes nous pouvons imaginer. Et c'est ce que nous cherchons par la grâce de Dieu. C'est ce que nous cherchons pour nos vies, nos ministères, pour notre équipe, pour notre Église, croissance et impact malgré nos imperfections. Croissance. Pour avoir plus de personnes dans l'Église, oui. Pour avoir une grande Église, oui, absolument. Nous voulons avoir une grande Église. Nous voulons, comme dans le Livre des Actes, les membres soient ajoutés à l'Église à chaque jour, des personnes qui sont converties, non pour la gloire de l'homme, mais pour la gloire de Dieu. Parce que, comme j'ai dit la dernière fois, plus de gens dans l'Église, moins de gens à l'enfer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Personne ne devrait avoir un problème avec ça. C'est pour la gloire de Dieu et non la gloire de l'homme, pour la gloire et le plaisir de Dieu. Comme nous voyons en Proverbe 14, 28, quand ça dit « Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. » Le rêve de Dieu, le désir de Dieu, la passion de Dieu, c'est d'avoir l'Église remplie avec des personnes converties qui connaissent le Seigneur comme nos sauveurs personnels, sont nés de nouveau, libérés, transformés, qui peuvent célébrer avec nous les dimanches matins ici, Seigneur, remplir cette salle, remplir chaque chaise vide, Seigneur, remplir la jeunesse et l'école de dimanche. On va avoir une croissance, une réunion, deux réunions. Ajoute à ton Église, non pour la gloire de l'homme ou une Église, mais pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour la vie, pour le salut de cette communauté. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est pour ça qu'on cherche la croissance. C'est biblique et c'est le cœur de Dieu. Alors maintenant, ce matin, c'est ce que j'appelle, pour les prochains quelques semaines ou mois, je vais vous donner ce que j'appelle les clés pour la croissance. Les clés pour la croissance, ou comment rendre tes résolutions une réalité. On peut appeler ça les clés de la croissance, ou on peut l'appeler comment rendre tes résolutions une réalité. On peut dire tes résolutions ou tes rêves, parce qu'ils sont souvent un et le même. Quand on va faire des résolutions, c'est souvent basé sur un rêve que nous avons. Nous prenons des résolutions parce que nous avons des rêves, des choses qu'on veut changer, des choses qu'on veut améliorer, des choses qu'on veut accomplir, des choses qu'on veut devenir. C'est pour ça qu'on va prendre des résolutions, parce que nous avons un rêve au bout de cela. Moi, j'ai pris une résolution au début de l'année de faire attention à ce que je mange, de suivre un régime d'alimentation, parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve d'être l'envie de tous les jeunes hommes sur la plage cet été. Même si j'ai 43 ans. Il y en a qui vont dire, ouais, ça c'est un rêve. That's a dream. On a des petites résolutions parce qu'on a des petits rêves. On prend aussi des grandes résolutions parce que nous avons des grands rêves. Normalement, quand on va prendre une résolution, parce que nous avons un rêve au bout. Et la résolution pour l'Église évangélique de la Rive-Nord est la croissance. Pourquoi? Parce que nous avons un rêve. Un rêve de voir Laval sauvé. Un rêve de voir l'Église évangélique de la Rive-Nord comme un lieu d'impact et de lancement pour la francophonie. De voir l'Église évangélique de la Rive-Nord comme un lieu de guérison, un lieu de bénédiction pour Laval et les nations. Nous avons un rêve d'avoir des enfants bénis et des jeunes bénis et des familles bénies et des couples qui sont restaurés, d'avoir une bénédiction sur le peuple ici, sur la Rive-Nord. Nous avons un rêve d'être une Église selon le livre des Actes. Notre rêve est le rêve de Dieu. Nous avons un rêve pour l'Église, et c'est pour ça qu'on prend des résolutions, parce que nous voulons accomplir le rêve et la vision de Dieu pour cette Église et pour votre vie. Et pour les clés, nous allons regarder un passage très pertinent pour le début d'une année et le lancement d'une vision, où ce qu'on découvre les clés pour rendre nos rêves une réalité. C'est une histoire très connue dans l'Évangile de Matthieu. Regardez avec moi Matthieu chapitre 26, où vous pouvez garder sur l'écran. Tous les passages sont sur l'écran, ou vous pouvez suivre dans votre Bible. Écoutez bien ce passage, ok? Il y a plusieurs versets. C'est une histoire qu'on connaît dans la vie de, vers la fin de la vie de Jésus avant la crucifixion. Un échange entre lui et Pierre. Puis ici, on découvre les clés pour rendre nos rêves une réalité, nos résolutions une réalité. Matthieu 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, les brebis de troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prenant la parole lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. Et je lui dis, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus allait avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, puis commençait à éprouver la tristesse et les angoisses. Puis il leur dit, « Alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez, veillez avec moi dans la prière. » Verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Puis il vint vers les disciples qui trouva endormis. Puis il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint les trouvant encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis là, vers ses disciples, il leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Ça, c'est un passage qui est très pertinent pour la nouvelle année, pour une nouvelle année et pour le lancement d'une vision. Parce que le début d'une nouvelle année, janvier, le lancement d'une vision, c'est un moment de grande déclaration. On vit dans un moment de grandes promesses, de grandes idées, de grands plans, de grandes intentions et de grands engagements. Janvier, c'est le moment de la prise des résolutions. Des résolutions par rapport à la santé, des résolutions par rapport à la vie spirituelle. On prend des résolutions par rapport à la vie sociale, par rapport à la sanctification. Puis on va faire des promesses à Dieu. Nous allons, je vais faire, je vais devenir, je vais être, je vais accomplir. Cette année sera une année différente. Cette année va être une année meilleure que les autres années. J'ose dire que chaque personne ici a fait au moins une résolution pour l'an 2007. Et en tant qu'Église, nous avons pris des résolutions. En tant qu'équipe pastorale, en tant qu'équipe de comité d'administration, en tant que congrégation, le 7 janvier, nous avons pris des résolutions. Et c'était une résolution de vivre la croissance. Nous avons fait des grandes déclarations, puis on les fait encore ce matin, qui sont très semblables à celui de Pierre. Matthieu 26, encore une autre fois, quand Pierre a dit, Pierre prenait la parole. Hein, remarque ces grandes déclarations. « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Et Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Quelle belle déclaration de la part de Pierre. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Mais quelle belle résolution! Quelle belle déclaration! Il a dit, « Jésus, tu peux compter sur moi. Jésus, je vais être fidèle. Même si tous les autres tombent, je vais demeurer. Je vais être meilleur que les autres. » Grande déclaration de fidélité, d'engagement, d'amour et d'excellence. Comme nous avons fait et comme nous allons faire. Je vais vous lancer quelques déclarations pour l'Église évangélique de la Rive-Nord. Nous sommes engagés à la croissance constante et continue. Nous allons faire une différence dans cette communauté et parmi les nations. L'Église évangélique de la Rive-Nord va passer d'un champ missionnaire à une force missionnaire. On va passer du potentiel à la puissance. Nous allons passer de la fidélité aux fruits. Moi, je rends grâce au Seigneur pour la fidélité, mais le Seigneur nous appelle tous et chacun à plus que la fidélité. Il nous parle à porter de fruits, beaucoup de fruits, à une puissance, à devenir une force missionnaire. Ce sont des déclarations qu'on fait pour toute la congrégation. Combien sont d'accord que ce sont des belles résolutions? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Combien aiment cette vision de la croissance? Encouragez-moi un peu. Levez vos deux mains et dites, oui, je suis d'accord avec ça. Une résolution de la croissance. C'est une belle déclaration. C'est une belle résolution. C'est souhaitable. Non seulement souhaitable, mais c'est biblique. C'est essentiel. C'est possible que ces déclarations deviennent une réalité. Elles sont un peu comme celles de Pierre. Tout ce qu'il a dit était bien. Tout ce qu'il a dit était possible. Qui peut critiquer Pierre pour les déclarations qu'il a faites? C'était son rêve. Je veux être un homme de Dieu. Tu peux compter sur moi. Il y avait un rêve dans son cœur, Pierre. Il voulait être un homme de Dieu. Il était conscient de ses faiblesses, mais il voulait être un homme de Dieu. Même si tous les autres tombent, tu peux compter sur moi. Moi, je veux être l'homme de Dieu. Même si tout le reste abandonne. Jamais je vais t'abandonner. C'était un rêve dans son cœur qu'il avait d'être un homme de Dieu. C'était son rêve et le rêve de Dieu. Le désir de Dieu et de Jésus, c'est qu'il soit cet homme de Dieu. Pierre avait des bonnes intentions. Il était sur le bon chemin. Parce que tout bon projet débute avec une parole et une déclaration. Mais, nous savons comment que l'histoire a conclu. Nous savons qu'est-ce qui est arrivé à Pierre. Malgré ses grandes déclarations, nous savons comment que l'histoire a terminé avec un reniement, un abandon, la confusion, un échec total, où ce qui même il blasphème Jésus. Même il dit, je le connais pas cet homme, et il maudit juste pour être convaincant. Malgré ses grandes déclarations, ça a terminé en échec total. Il n'a pas réalisé son rêve. Mais en ce moment-là, Pierre était très sérieux, très sincère. Il savait pas du tout que c'était pour terminer comme ça. Il pensait, oui, moi, tu peux compter sur moi. Il était très, très, très sincère. Il ne prévoyait jamais échouer. Il ne prévoyait jamais abandonner. Il ne prévoyait jamais laisser son meilleur ami, son sauveur, de les laisser tomber. Jamais il aurait prévu de maudire Jésus par ses paroles et ses actions. Comme n'importe quel chrétien. Comme n'importe quelle église, n'importe quel pasteur ou ministère, personne n'a l'intention d'échouer, personne n'a l'intention de tomber, personne n'a l'intention d'abandonner leurs résolutions et leurs engagements, personne n'a l'intention de gâcher leurs rêves, personne n'a l'intention d'être infidèle à leurs vœux et leurs promesses, ni Pierre. Mais le problème de Pierre est simple. Le problème de Pierre, c'est qu'il a fait des grandes résolutions, mais il a dormi quand il aurait dû prier. Le problème de Pierre, c'est qu'il n'a pas ajouté la prière à ses promesses. Il a dormi sur ses résolutions. Il a pris des grandes résolutions et des grandes déclarations, mais quand Jésus l'a invité à ajouter la prière à ses promesses, il a dormi. Et nous pouvons faire toutes les grandes déclarations que nous voulons pour notre vie et pour l'Église. Mais si on dort au lieu de prier, nous allons échouer comme Pierre, parce que la clé pour la croissance est la prière. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Il n'a pas ajouté la prière à ses promesses. Très simple. Très simple. Vous voulez savoir ce sont quoi les trois clés pour rendre nos rêves une réalité? Les trois clés pour rendre nos rêves une réalité. Clé numéro un, la prière. Clé numéro deux, la prière. Clé numéro trois, la prière. Les trois clés pour rendre nos rêves une réalité. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? La prière. Il va y en avoir d'autres clés, mais ça débute avec la plus importante, la prière. Avec nos promesses et nos paroles et nos prophéties, il faut ajouter la prière. C'est la prière qui rend nos résolutions une réalité. Après la promesse vient la prière. La prière alerte, la prière attentif, la prière persévérante. Jésus est allé, puis il a prié trois fois, puis a répété les paroles, puis a prié, puis il avait l'angoisse. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dormi. Il faut la prière, il faut veiller, il faut se mettre à l'œuvre. Moi, ça fait assez longtemps que je suis dans le ministère pour savoir que rien remplace le travail de la prière, la planification, la préparation, la participation. Comme je dis souvent, le ministère est 10% inspiration et 90% transpiration. Pierre, il y avait l'inspiration. Personne, Seigneur, moi jamais je vais te laisser tomber. Inspiré sur la montagne, tu peux compter sur moi. Mais quand ce venait temps de transpirer dans la prière, il a dormi. Ajoute avec votre inspiration la transpiration du travail et nous allons rendre nos résolutions une réalité. Il ne voulait pas travailler à la prière. Le premier travail est la prière. Sans la prière, la dépendance au Dieu, nos résolutions ne valent rien. Sans la prière, nos promesses deviennent des promesses sans substance, des promesses vides, vaines. Pierre a échappé le ballon. Est-ce qu'on dit ça en français? Il a échappé le ballon. He dropped the ball. Est-ce qu'on dit en anglais? He dropped the ball. Il a échappé le ballon. Il a gâché, il a fait une erreur. Il a échappé le ballon quand Jésus lui a invité dans un lieu de prière. Jésus a entendu ses grandes promesses, puis dit, OK, Pierre, viens prier d'abord. Viens prier. Il l'a invité dans le lieu de la prière pour prendre possession de ses promesses. Mais il a échappé le ballon. He dropped the ball. Parce que Jésus l'a invité personnellement à la prière avec lui, puis il a dormi au lieu de prier. Ça, c'est une gaffe. Il pensait que les bonnes intentions suffisaient. Il pensait que l'avoir dit et déclaré, ça suffit, ça, je l'ai déclaré, je le réclame. Il a pris pour acquis qu'il était pour réussir. Il était coupable de la confiance en soi au lieu que la confiance en Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Avec ses promesses, il a oublié de crier « Au secours à Dieu! À l'aide! J'ai un rêve, mais je ne suis pas capable sans toi, Seigneur! » Il a oublié de crier vers le Seigneur. « Au secours! » Comme s'il pouvait réussir sans la grâce de Dieu. Comprenez quelque chose ce matin. Peu importe les paroles prononcées par vous ou par d'autres, ou par moi sur cette Église, peu importe les prophéties prononcées sur cette Église, peu importe les promesses que nous avons faites, peu importe nos bonnes intentions, peu importe les choses que je prêche ici en avant sur la croissance, peu importe les bons moments à l'autel et nos engagements envers Dieu et les autres, même s'ils sont les plus nobles, les plus bibliques et honorables, sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nos promesses ne vaut rien. Mes paroles ici ne vaut rien. Nos résolutions sont destinées à l'échec. La seule façon qu'on peut faire ces choses, c'est de savoir que nous ne pouvons pas faire ces choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est le paradoxe. La seule façon qu'on peut les faire, c'est de savoir qu'on ne peut pas les faire sans l'aide de Dieu. Pierre a fait deux erreurs ici. Il a sous-estimé les deux choses qu'on ne devrait jamais sous-estimer quand on fait des résolutions pour des grandes promesses à Dieu. Deux choses qu'on ne devrait jamais sous-estimer. La chair et le combat. La chair et le combat. Pierre a fait une erreur ici. Il a sous-estimé sa chair. Et il a sous-estimé le combat. Deux raisons pour lesquelles on néglige la prière. Deux raisons pour lesquelles nos résolutions ne deviennent pas des réalités comme Pierre. Parce qu'on sous-estime la chair. Mais Jésus savait. Jésus a mis le doigt sur le bobo. Il a mis le doigt sur le bobo directement. Jésus est l'expert anthropologiste. Il connaît l'homme. Il connaît les faiblesses de l'être humain. Jésus n'était pas impressionné par les déclarations de Pierre. Vous remarquez cela? Pierre fait des grandes déclarations, mais Jésus n'est pas impressionné. Parce que Jésus est un anthropologiste. Il connaît l'homme, il a créé l'homme. Il connaît qu'est-ce qui est à l'intérieur de l'homme. Puis il met le doigt sur le bobo en Matthieu 26, 41. Il a dit, « Veillez et priez, Pierre. » Tu as fait des belles résolutions, tu as fait des belles paroles, mais veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voici la clé. On a des bonnes intentions, mais notre chair est faible. On n'est pas capable sans Dieu. Savez-vous qu'est-ce qui me pousse dans la prière au début de la nouvelle année? C'est seulement la fin de janvier, mais on a déjà fait deux périodes de jeûne et prière séparées. Déjà des moments, 2-3 jours de jeûne et prière pour prier le Seigneur. Savez-vous qu'est-ce qui me pousse à jeûner et prier au début d'une année? C'est parce que j'ai aucune confiance en moi. Après 43 ans, j'ai aucune confiance en moi. J'ai pas de confiance en ma parole, j'ai pas confiance en mes promesses, je ne me crois même pas quand je fais des résolutions. Moi, je vais faire des résolutions à Dieu, puis je dis, Marc, t'es un menteur. C'est pas vrai, ça. Cette année, je vais faire, non, c'est pas vrai, ça. Après 43 ans, je ne me crois même pas quand je fais des déclarations. Cette année, ça va être différent. Cette année, je vais être meilleur homme de Dieu, plus discipliné, faire attention. Je ne me crois même pas après 43 ans. Quand je prends une résolution, parce que je sais que je ne suis pas capable. J'ai des bonnes intentions, mais ma chair est mon problème, comme la chair est votre problème. Jésus a mis le doigt dessus. Donc, qu'est-ce qui me pousse à prier, à jeûner? C'est parce que je fais des belles promesses à Dieu, puis après ça, je me mets face à terre, puis je dis, Seigneur, au secours, parce que je ne suis pas capable. Jésus a dit, ta chair est faible. Bon, moi, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire, mais mon impression est que ma chair n'est pas faible du tout. Elle est forte. Trop forte pour moi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je dis, la chair est faible. Ma chair n'est pas faible du tout. C'est ça mon problème. Je sais qu'est-ce que Jésus voulait dire. Moi, j'ai l'impression que ma chair est forte. Ma chair crie pour l'attention. La paresse, le lit, la nourriture, sexualité. Ma chair est forte. Mais c'est justement ça la faiblesse. Parce que notre chair est forte. On a des bonnes intentions, mais notre chair prend le dessus. Ma chair est forte et c'est ma faiblesse. C'est pour ça que j'ai besoin de Dieu pour vaincre ma chair. J'ai besoin de Dieu pour crucifier ma chair, pour surmonter, résister à la tentation. Chaque matin, je me réveille avec des bonnes intentions, Marc Lecomte. Je me réveille chaque matin avec des bonnes intentions, avec des promesses et des ambitions pour Dieu, avec une intention d'être un homme de Dieu. Chaque matin, je me réveille comme vous et je dis à Jésus, « Aujourd'hui, tu peux compter sur moi, Seigneur. Aujourd'hui, je vais être un homme de Dieu. Aujourd'hui, je vais veiller à mes responsabilités. » Chaque matin, je me réveille avec des bonnes intentions. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut, comme Pierre, moi je veux dire, tu peux compter sur moi, mais si je dors au lieu de prier, je ne pourrai pas parce que j'ai désespérément besoin de Dieu. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici qui a désespérément besoin de Dieu pour vaincre les désirs de sa chair? Levez vos mains vers le Seigneur pour démontrer que je ne suis pas tout seul. J'ai besoin du Seigneur à chaque jour, sinon je ne pourrai pas. Confiance en soi détruit. Rien va détruire une église plus vite que la chair. Comprenez, écoutez ce que je dis là. Rien va détruire une église plus vite que la chair. Un rêve plus vite que la chair. Une vision plus vite que la chair. Des actions et des réactions charnelles. Pierre, grande déclaration, puis après ça, il a dormi. La chair, paresse. Combien ont perdu leur rêve? Qui ont gâché leur avenir par le péché. Combien d'hommes et femmes et d'églises et de ministères avaient des rêves? Ils ont pris des résolutions. Ils étaient bien partis. Mais pour un moment insensé de sensualité stupide, ils ont gâché leur rêve. Ne sous-estimez jamais votre capacité pour le péché. Car rien ne peut détruire une église plus vite que la chair. Moi, je peux prononcer toutes sortes de belles déclarations sur l'Église ici, inspirées par le Saint-Esprit, puis on peut dire « Amen à cela, la croissance! » Mais rien ne va gâcher ses rêves et ses résolutions plus vite que la paresse, la négligence, l'arrogance, la jalousie, le mensonge, le vol, la critique, l'orgueil, l'incrédulité, l'immoralité sexuelle, la pornographie. Il faut qu'on résiste à la tentation, la pornographie, l'adultère et l'immoralité par la prière. Parce qu'on est envahi par ça. Envahi, bombardé, accessible partout. Il faut veiller, prier, agir violemment avec vos habitudes destructeurs. Vous savez c'est quoi? Prenez des belles résolutions. Croissance, Seigneur! Mais agis violemment avec les affaires qui vont vous détruire. Ne vous fiez pas sur votre chair. Elle est trop forte. C'est votre faiblesse. Crucifie la chair. Résiste à la tentation. Marche dans l'intégrité. Marche dans la purité. Lancez-vous à genoux. Demandez quelqu'un vous aider dans la prière. Jeûne, prie. On va briser les chaînes, chasser les démons s'il faut. Mais il faut qu'on marche dans la purité avec nos corps, notre temps, notre sexualité, avec notre argent pour glorifier le Seigneur afin de réaliser le rêve de Dieu pour nous et pour l'Église. Est-ce que tu peux entendre un amen à cela? Prie! Viens gâcher une église plus vite que la chair. Jésus et l'Église méritent votre intégrité. Jésus et l'Église méritent que vous contrôlez, crucifiez la chair, que vous vous comportez avec honneur, avec votre famille, avec votre vie. Car les yeux de la ville sont sur vous, les yeux des gens sont sur vous, les yeux des jeunes sont sur vous. Moi, je promets de ne pas vous laisser tomber. Moi, je promets de ne pas vous laisser tomber. Jamais je vais vous abandonner. Jamais je vais pécher et perdre mon témoignage. Jamais je vais négliger mes responsabilités. Ça, c'est mon engagement envers vous. Mais il ne faut pas que vous me laissiez tomber non plus. Il ne faut pas que tu laisses l'équipe pastorale tomber non plus. Laisse-moi pas tomber. Quand c'est temps de prier, prie. Marche dans la sanctification. Dis non quand il faut dire non. Impliquez-vous. Fais ce qui est nécessaire. Prie pour moi. Prie pour moi, j'ai besoin de vos prières. Prie pour l'équipe pastorale. Moi, je ne vous laisserai pas tomber, mais laisse-moi pas tomber non plus. On est dans une guerre spirituelle. Puis, aucune confiance dans aucun homme. On a tous besoin de l'aide de Dieu. Et je ne peux pas arriver sans que vous priez pour moi. Prie pour moi. Prie pour l'équipe pastorale. Prie pour pasteur Mathieu Moreau et toute la jeunesse. Prie pour Stéphane Langlois et l'éducation chrétienne. Prie pour Francine Cloutier et toute l'aide de counseling pastoral. Prie pour les diacres. Prie pour l'équipe. Prie pour les pasteurs. Prie pour les prédicateurs. Prie pour les musiciens. Laisse-moi pas tomber. Moi, je vous laisserai pas tomber. On fait un engagement. On laissera pas la chair vaincre la réalité du rêve de Dieu pour cette église. On va prier les uns pour les autres, et nous allons réaliser nos résolutions par la grâce de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Priez pour moi, je vais prier pour vous. Vous ne laisserez pas tomber, mais laisse-moi pas tomber non plus. On a une réunion de prière ici à 16h. C'est la seule réunion de prière appelée pour le mois de janvier. Ne soyez pas devant la télévision, soyez là. C'est une heure ou peut-être 90 minutes dans la présence de Dieu pour sceller les résolutions. Comme Pierre, Jésus nous invite à un lieu de prière à 16h. Soyez là. Ne dormez pas. Ne faites pas d'autre chose. C'est un Gethsémané. C'est une invitation de Jésus-Christ. Nous allons être là. L'équipe pastorale va être là. Les diacres vont être là. Et nous allons prier et nous n'allons pas gâcher comme Pierre a fait. On va prier quand il faut prier. On va prier ensemble, on va prier les uns pour les autres et on va posséder les résolutions et les rêves dans la prière. Parce que si on dort et on ne prie pas, c'est rien que des paroles vides, des paroles en l'air. Il faut ajouter la prière avec nos promesses. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Soyez là. Prie à la maison, prie à l'église, prie. Il ne faut pas sous-estimer la chair. Il ne faut pas sous-estimer le combat non plus. Jésus avait averti Pierre. Non seulement qu'il a sous-estimé la chair. Moi, je suis capable, mais sans la prière. Je vais juste dormir, je vais faire d'autres choses. La prière, c'est pour d'autres. Moi, je suis capable sans la prière. Première erreur. Mais il a sous-estimé aussi le combat. Jésus l'avait averti, hein? Mais Pierre n'a pas compris ce qui était pour lui arriver. Jésus l'avertit sur la montagne. Il va être frappé, le berger, puis il va être une nuit difficile. Mais il a dormi parce qu'il a sous-estimé l'intensité du combat. Il n'a pas prié. Il n'était pas prêt et préparé quand l'ennemi est arrivé. Vous connaissez l'histoire. Il n'était pas prêt pour le combat. Sur la montagne, c'est facile de faire des grandes promesses et des grandes déclarations. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Vous remarquez le contexte de ces déclarations-là? Ça dit qu'ils ont chanté des cantiques sur la montagne avec Jésus. N'est-ce pas ça merveilleux? Hein? Ils sont sur la montagne, les oiseaux chantent, il y a le soleil qui brille, ils sont dans la présence de Jésus, ils chantent des cantiques, c'est une réunion, la présence de Dieu est là, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait sa guitare, puis il jouait la musique et tout ça. Ça dit qu'ils chantaient des cantiques. Puis c'est là que c'est facile sur la montagne. Tu peux compter sur moi, Jésus. Jamais je vais te laisser dans... Mais ça, c'est facile. Quand on est à l'église, c'est facile. On a la prédication, on nous inspire. On est avec nos frères et nos sœurs. On a la belle musique qui joue. Il y a l'ambiance à l'église. On vient en avant. La réunion de jeunesse, on est à l'hôtel. Oh, comment que c'est merveilleux. Jésus, je donne ma vie pour toi. Tu peux compter sur... Ça, c'est facile à la montagne. Mais le combat n'est pas gagné sur la montagne. Le combat est gagné dans le jardin. Il faut qu'on parte de la montagne au jardin. C'est facile de faire des dans la montagne, mais qu'est-ce que vous allez faire dans le jardin, dans le lieu de test, le lieu de combat, le lieu de la prière? C'est là qu'il faut gagner, c'est là qu'il faut persévérer. Ne sous-estimez jamais le combat. On peut dire des choses très faciles à l'église, mais qu'est-ce que vous faites à la maison? Il faut passer du montagne à la jardin. Le jardin, c'est le test, le combat, c'est là qu'il faut gagner. Adam a perdu dans le jardin. Pierre a perdu dans le jardin. Mais gloire à Dieu, Jésus a gagné dans le jardin. Jésus a gagné dans le jardin. Adam a perdu, Pierre a perdu, mais Jésus a gagné dans le jardin et nous pouvons gagner dans le jardin. Dans le lieu de la prière, le combat. Je termine dans un instant. Mais parce que Pierre n'a pas prié, parce que Pierre a dormi, parce que Pierre n'a pas veillé, quand le combat est arrivé, il était surpris. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Ah, tout est armé, tous les soldats. C'est la nuit, là. Tout d'un coup, Pierre est pris par surprise. Quand le combat est arrivé, il était confus. Il a réagi par la chair. Il a sorti son épée, puis il a coupé l'oreille de l'autre. On va les battre dans la chair. Puis Jésus a dit, non, c'est pas par la chair qu'on va les combattre. Une réaction charnelle. On va agir dans la chair, parce qu'il n'était pas prêt dans la prière. Sauf quand les attaques arrivent, il réagit dans la chair. Il fait des erreurs, des gaffes. Il pense qu'il peut le faire sur sa propre force encore une autre fois. Il n'a rien compris. On peut le faire avec l'épée, nos propres forces. Non. Quand le combat est arrivé, il est devenu craintif, panique, abandon, confusion. Il était loin de la montagne, là. Tandis que Jésus, vous remarquez, lui n'a pas sous-estimé le combat. Jésus savait qu'est-ce qui était pour arriver. Lui n'a rien sous-estimé. C'est pour ça qu'il est pris avec persistance, passion, intensité. Ça nous dit qu'il a transpiré des gouttes de sang. Il a tellement prié pour se préparer pour le combat. Lui savait. Alors, quel contraste. Jésus a prié avec de l'angoisse, puis a fait face au combat avec de l'aise. Pierre, lui, il a pas prié. Hein? Il a pris ça à l'aise. Relax quand c'était temps de prier. Mais quand le combat est arrivé, il a fait face avec angoisse. Mais vous remarquez Jésus? Angoisse dans le lieu de prière. Mais quand la nuit arrive avec tous ses soldats, dans un moment démoniaque, calme. L'angoisse dans la prière, mais calme dans le combat. Calme, confiance, courage. Il y avait la paix. Chaos partout. Les disciples, ça court un peu partout. Ça ne sait pas quoi faire. Ça commence à abandonner, renier, retourner, cacher. Ils sont confus. On va commencer les combats. Jésus, calme. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Il a prié. Il s'est préparé. Il a prié avec angoisse. Il est allé chercher l'aide du ciel. Il est allé chercher la grâce de Dieu. Sauf quand le combat est arrivé, il pouvait faire face avec grâce. Il a trouvé l'aide d'en haut. Si Pierre avait prié, l'histoire aura conclu différemment. Pierre aura pu être l'homme qu'il voulait être. Pierre aura pu se tenir avec Jésus. Pierre aura pu avoir une réponse à sa prière. Pierre aura pu être un héros dans cette histoire-là, le seul qui se tient avec Jésus. S'il aurait dû juste prier, l'histoire aurait terminé différemment. Combien d'histoires auraient pu terminer différemment si on aurait juste prié, se préparé dans le combat, demandé de l'aide, demandé le secours du ciel? Combien de rêves qu'on aura pu accomplir? Combien d'histoires aura terminé différemment? Si on pourrait juste se réveiller le matin et dire un mot de prière au lieu d'avoir 15 minutes de plus au lit? Si on pourrait juste se déplacer de temps en temps et prier à l'église au lieu d'être devant la télévision? Si on pourrait juste s'ajouter la prière à nos promesses? Combien d'histoires pourraient terminer en héros au lieu de zéro? Comprenez quelque chose. Le combat arrive. L'Église évangélique de la Rive-Nord, l'Église Nouvelle Vie, ETF. Le combat arrive, je sais, parce qu'il n'y a rien qu'on peut lancer et faire. On ne peut pas lancer des grandes visions. S'impliquer, donner, aider les pauvres, prêcher, évangéliser, sans qu'on réveille le combat. On est dans une guerre spirituelle pour l'âme de Laval et la francophonie. La guerre spirituelle est réelle. Satan haït l'Église. Il haït cette Église. Il aimerait fermer cette Église. Il arrive avec une armée pour nous empêcher d'arriver à notre destinée. L'Église est une honte pour lui. Votre avancement est une défaite pour lui. Les résolutions que vous prenez, c'est une défaite pour lui. C'est une honte. Quand vous dites « cette année, ça va être différent », c'est une honte pour lui. Que vous arrivez à votre destinée, c'est une honte pour lui. Alors préparez-vous pour la guerre. Préparez-vous dans la prière. Réveillez-vous. Veillez. Regardez, comme Jésus a dit. Suppliez l'aide de Dieu. Soyez dépendants sur lui. Et si on prie ensemble et on prie les uns pour les autres et on prend au sérieux la prière et on prie au lieu de dormir, nous allons faire face à notre destinée. L'ennemi peut arriver avec tous ses mignons, avec toutes ses armées, avec tous ses démons, avec tous ses mensonges et sa pression. Et nous, on va être comme Jésus. On va juste marcher en l'an 2007 avec la paix et le calme et le courage et la confiance, parce qu'on est préparé dans la prière. Il ne va pas nous gâcher, il ne va pas nous arrêter d'arriver à notre destinée. Une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Nous allons arriver dans la prière. Nous allons arriver. On va faire face avec le calme, avec la paix, avec la confiance, parce qu'on est préparé dans la prière. Par la grâce de Dieu et la prière, aucun démon de l'enfer ne va pouvoir nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Par la grâce de Dieu, la prière, nous allons accomplir nos résolutions, nos buts. Le rêve de Dieu pour chacun de nous, votre tante qu'Église, va être accompli. La parole et les paroles prophétiques sur cette Église vont être accomplies parce qu'on a mis la prière avec ces paroles prophétiques. L'avenir appartient à Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? 120 personnes ont devenu une nation, une race, un peuple parce qu'ils se sont mis à la prière. On va prier, puis on va convoquer et invoquer l'aide du ciel. Prie à la maison, prie le matin, prie à l'église, qu'on apprend à prier, prier. Je termine avec cette petite histoire d'un poète américain. Un poète américain qui raconte l'histoire d'une femme à la porte de la nouvelle année. Puis elle voit rien que la noirceur, un avenir inconnu. Puis il demande au gardien de la porte une lampe, parce qu'il dit, je ne vois pas l'avenir. C'est comme ça qu'on fait face à une nouvelle année. Hein? On ne voit pas l'avenir, c'est tout noir. Là. Je ne vois pas ce qui est devant moi. Alors, demande au gardien de la porte une lampe pour illuminer son chemin. Le gardien dit, je vais vous donner quelque chose de meilleur. Je vais vous donner la main de Dieu. Il dit, mettez votre main entre la main de Dieu. Puis il va faire plus que seulement illuminer le chemin. Il va vous donner la sécurité. Il va vous protéger. Il va vous diriger, même dans l'inconnu. Mets ta main entre la main de Dieu. C'est ce que nous voulons faire à la fin du premier mois de l'année 2007, la fin de janvier. Vous avez entendu des déclarations, vous avez entendu des résolutions, vous avez entendu des promesses et des prophéties. Mais ce que nous voulons faire pour toutes nos résolutions personnelles et en tant qu'Église, on veut faire quelque chose de très simple ce matin. On veut mettre notre main entre les mains de Dieu, dans la prière. Il dit, Seigneur, aide-moi à arriver avec mes résolutions, avec mes rêves. Cette année, je vais être un homme de Dieu. Cette année, ça va être différent. Cette année, je vais crucifier la chair. Cette année, je vais me préparer pour le combat. Cette année, ça va être différent. Pas parce que j'ai confiance en moi, mais parce que j'ai confiance en toi. Combien ont besoin de la main de Dieu ce matin? J'ai besoin de la main de Dieu. C'est quelque chose que je peux faire, moi, au début d'une année. C'est mettre ma main dans les mains de Dieu. Seigneur, conduis-moi pour que les rêves que tu as placés dans mon cœur deviennent des réalités. Vous voulez placer votre main dans les mains de Dieu? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Si c'est votre prière, levez vos mains vers le Seigneur. Et dis, Seigneur, je mets mes mains entre tes mains. Mes mains entre tes mains. Mes mains entre tes mains, Seigneur, c'est rien que ça que je peux faire. Est-ce qu'on peut avoir un moment de prière? Levons nos voix vers le Seigneur. Et dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je ne veux pas sous-estimer la chair. Je ne veux pas sous-estimer le combat.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.